Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected.
Bonjour, bienvenue sur Accent d'Europe. Avec une semaine très électorale, deux scrutins qui vont, hasard des calendriers, décider d'un nouveau futur pour la France et le Royaume-Uni. Avec de part et d'autre de la Manche, une claque annoncée pour le parti au pouvoir. En France, une défaite pour la coalition Ensemble autour du président Emmanuel Macron. Au Royaume-Uni, un revers historique pour les conservateurs autour du Premier ministre Rishi Sunak. On retrouve à Londres notre correspondante Marie Billon. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Marie, au Royaume-Uni, le pouvoir d'achat a été aussi au cœur de la campagne. Mais curieusement, le Brexit, qui est au centre des difficultés économiques du pays, ce Brexit est aujourd'hui à peine évoqué.
Non, c'est une question très très épineuse pour certains, en l'occurrence les politiques. Un sujet dépassé par contre pour d'autres, surtout les Britanniques, pour qui le coût de la vie est la priorité absolue pour ces élections. Mais justement, selon le professeur de sciences politiques Frédéric Harry-Pitz, c'est un point sensible parce que la sortie de l'Union européenne a eu des conséquences négatives sur l'économie du pays et donc sur le quotidien des électeurs.
Il y a un sentiment généralisé, même parmi les personnes qui ont voté pour le Brexit, que la façon dont cela a été fait n'était pas satisfaisante. Les conservateurs n'en parlent pas, Reform UK n'en parle pas, sans doute parce que le parti de Nigel Farage ne veut pas paraître impliqué dans ce qui a été un processus qui a vraiment conféré peu d'avantages au Royaume-Uni. En tout cas, sur le plan économique ou matériel, le Brexit a probablement causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Il y a donc une certaine réticence. Personne ne peut vraiment célébrer le Brexit comme une réussite.
Donc la sortie de l'Union européenne, c'est le sujet qui impacte tout le monde, mais que tout le monde ignore.
Oui, un seul s'y risque. Le Parti travailliste a décidé de mettre les pieds dans le plat, mais avec précaution. Selon les analystes, la gauche est assez à l'aise. Elle a autour de 20 points d'avance dans les sondages pour oser frôler la question. Keir Starmer, le chef du Labour, en a parlé sur la BBC.
We've left, but we're not going. Nous sommes sortis et nous ne reviendrons pas dans l'Union européenne, ni dans le marché unique, ni dans l'union douanière. Mais je pense qu'on peut faire mieux que le misérable accord que Boris Johnson a négocié. Je crois que le monde des affaires est d'accord. Alors à tous les entrepreneurs qui m'écoutent, je dis oui, j'entends ce que vous dites sur les barrières qui ont été imposées pour faire du commerce et nous allons faire quelque chose pour y remédier.
Alors il faut rappeler que Keir Starmer en 2016 avait fait campagne contre le Brexit et puis il avait été en faveur d'un second référendum et maintenant il veut faire en sorte que le Brexit fonctionne. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2019, quand le Brexit était le sujet de la campagne, la gauche a perdu énormément d'électeurs qui ont choisi, souvent pour la toute première fois, de voter conservateur pour Boris Johnson et pour le Brexit. Aujourd'hui, les travaillistes essaient de récupérer ces électeurs sans aliéner ceux qui leur sont restés fidèles parce que justement, ils étaient opposés au Brexit. C'est un jeu d'équilibriste assez fin et en dire le moins possible sur ce que concrètement ils veulent faire, c'est la stratégie adoptée par les travaillistes. Pour l'instant, la ligne est juste de négocier un meilleur accord avec Bruxelles, accepter à la marge qu'il y aura un peu de donnant-donnant, mais surtout ne point trop en dire.
Et pour les électeurs, ce n'est plus non plus le sujet, Marie.
Voilà, autrement, les partis politiques ne pourraient pas ignorer la question comme ils le font, même si certains électeurs y pensent quand même. Patsy, par exemple, est une retraitée qui a besoin d'aller dans une banque alimentaire parce que sa pension n'est plus suffisante pour payer ses factures et se nourrir. Je lui ai demandé, selon elle, pourquoi le coût de la vie est si haut en ce moment.
Je crois que c'est parce qu'on a quitté l'Union européenne. Avant, c'était pas si grave. On a eu le Covid, on a eu le Brexit et l'augmentation du gaz et de l'électricité, les prix dans les magasins qui s'envolent.
La situation internationale avec la guerre en Ukraine et les conséquences que cela a sur les prix de l'énergie est parfois aussi évoquée, mais cela montre bien que les causes de la crise du coût de la vie sont multiples. Ne blâmer que le Brexit, ce serait un parti pris. Et chez les conservateurs, personne ne peut dire que la période est moins difficile au Royaume-Uni que dans le reste de l'Europe grâce à la sortie de l'Union européenne. Un argument qui était utilisé pendant le Covid pour dire que Londres a pu déployer une campagne de vaccination plus rapidement que sur le continent. Bref, personne n'a d'intérêt à évoquer le Brexit, ni les politiques pour gagner des points, ni les électeurs, parce que ce qui compte pour eux est beaucoup plus concret que ça.
Merci Marie Billon à Londres.
It's the end of the Tories and they know it, and I feel fine.
Quand on parle du prochain scrutin au Royaume-Uni, les analystes parlent d'un scénario à la canadienne lorsqu'en 1993, le Parti conservateur canadien avait été tout simplement balayé du paysage politique. Les Tories, autoproclamés le plus vieux parti du monde, va sûrement affronter la débâcle lors du scrutin de vendredi. Les sondages le placent à 20 points derrière les travaillistes, sans parler des voix qui pourraient aussi se reporter sur le populiste d'extrême droite Nigel Farage et son parti Reform. Comment expliquer cette chute? C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
Quand ce déclin du parti conservateur a-t-il commencé? Beaucoup pointent qu'il est depuis 14 ans au pouvoir, l'usure est normale. Il y a eu aussi des instabilités, des luttes internes qui ont abîmé la confiance envers les Tories. 5 premiers ministres depuis 2019 tout de même. Et les mensonges. Écoutez le discours de Boris Johnson au moment de la victoire de son parti.
Qui que nous soyons, riches, pauvres, jeunes, vieux, les services de santé sont là pour nous. Et tous les jours, ils réalisent des miracles. C'est pourquoi il s'agit pour ce gouvernement de la priorité absolue.
Quelques mois plus tard, les hôpitaux étaient saturés à cause du Covid, vous vous souvenez du tableau, et Boris Johnson participait à des fêtes au 10 Downing Street pendant que les Britanniques étaient confinés. Mais il avait une excuse.
La dernière fois que la presse avait révélé la présence de Boris Johnson à une garden party, il s'était justifié en disant qu'il ne savait pas que c'était une fête, qu'il pensait que c'était une réunion de travail en extérieur.
Bojo a été lâché par son parti et c'est Liz Truss qui a eu la mission impossible de redresser le pays. Elle n'aura tenu que 6 semaines. À l'époque, rien n'allait. L'inflation frappait les Britanniques, tout comme la pénurie de carburant. Et son ministre des Finances a eu une idée particulièrement maladroite.
Kwasi Kwarteng avait provoqué la colère de nombreux Britanniques avec son plan de mini-relance, faite de baisses d'impôts et d'aides énergétiques. La livre est tombée à des taux bas historiques et les taux d'emprunt de l'État britannique ont flambé. Le tout dans le contexte d'une hausse générale du coût de la vie et notamment des factures d'électricité.
Avec ces baisses d'impôts pour les riches non financées, Kwasi Kwarteng a affolé les marchés. Il a démissionné un mois plus tard. Pas terrible pour un parti qui se vante d'être un bon gestionnaire. 2 semaines après, Liz Truss a suivi.
Étant donné la situation, je suis en incapacité d'accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour lui signifier ma démission en tant que leader du Parti conservateur.
Elle avait bien essayé de s'accrocher quelques jours plus tôt.
Je suis une battante, je n'abandonne pas.
Mais la pression à l'intérieur de sa propre famille politique a été plus forte. Rishi Sunak était censé reprendre un peu le contrôle du pays, en mettant fin à l'immigration illégale par exemple. Je vous passe la complexité politique et juridique de son projet d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Il a finalement été voté, des vols étaient censés partir, mais la justice y est opposée. Et fin avril, le Premier ministre faisait cette annonce.
Le premier vol partira d'ici 10 à 12 semaines. C'est bien sûr plus tard que ce que nous espérions, mais nous avons toujours été clairs sur le fait que cela prendra du temps et que si nos collègues travaillistes n'avaient pas passé des semaines à bloquer le projet de loi à la Chambre des Lords pour mettre fin à ces vols, nous aurions déjà entamé le processus.
Il semble avoir découvert qu'il y avait une opposition, que son projet était contraire au droit international et que les ONG ne le trouvaient pas terrible non plus. Rishi Sunak a décidé de convoquer des élections plusieurs mois avant la date prévue, ce qui l'oblige maintenant à faire campagne sans bilan concluant sur l'immigration. Aucun vol ne partira avant le scrutin. Ce n'est que l'aboutissement du déclin du Parti conservateur à qui tout semble avoir échappé, peut-être depuis le Brexit.
This decision is a decision. Brexit is Brexit. Now the situation is that.
Brexit is Brexit.
les conservateurs artisans, malgré eux, du Brexit, une sortie de l'Union européenne qui a un impact très direct sur l'économie du pays voisin, l'Irlande. Déjà porté par un impôt sur les sociétés très inférieur à la moyenne européenne, le tigre celtique bénéficie de la relocalisation de nombreuses entreprises qui ont choisi Dublin plutôt que Londres. C'est le reportage de Clémence Pénard.
Les grues poussent comme des champignons dans Grand Canal Docks, aussi appelé Silicon Docks. C'est dans ce quartier d'affaires que sont concentrés tous les géants de la tech. Grâce à une imposition plus qu'attractive, 12,5% sur les sociétés contre 20% en moyenne, les GAFAM ont choisi de s'installer à Dublin il y a déjà plusieurs décennies. L'histoire d'amour entre l'Irlande et le numérique date de 1956 quand IBM s'installe en premier sur l'île. Depuis, Google, Microsoft, Apple, Meta et j'en passe ont fait le même chemin. Et évidemment, ces multinationales stimulent la productivité du pays. Selon les derniers classements de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Irlande est le pays le plus productif au monde.
Hi Clémence, nice to talk to you. How are you?
Emma Howard est économiste à l'Université technologique de Dublin.
Basically, it's the value added.
On parle de la valeur ajoutée dans l'économie par heure travaillée. Elle est vraiment élevée en Irlande. Les derniers chiffres montrent que notre productivité totale est plus de deux fois supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Donc nous avons le plus haut niveau dans l'UE, mais lorsque vous décomposez ces chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a de grandes différences entre la productivité du secteur étranger et celle du travail domestique. Donc, globalement, nous sommes à 97 euros de valeur ajoutée par heure travaillée, mais pour les entreprises étrangères, il s'agit de 381 euros, alors que pour les entreprises nationales, ce chiffre n'est que de 53,80 euros. Une grande partie de cette productivité au travail est donc tirée des entreprises étrangères, pharmaceutiques ou bien des entreprises de technologie de l'information et de la communication. L'éthique.
L'attrait de l'Irlande en tant que pays où faire des affaires ne se résume pas uniquement à sa fiscalité. D'abord, l'Irlande dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée. Ensuite, depuis le Brexit, l'Irlande est désormais le seul grand pays anglophone au sein de l'Union européenne. Un avantage qui profite au cabinet de recrutement Approach People, fondé par le français Laurent Girard-Claudon.
Nous, on a constaté qu'on a un tiers d'offres en plus qu'avant le Covid. Donc, sans arrêt, les entreprises irlandaises nous contactent, les entreprises américaines en particulier, basées en Irlande, nous contactent. On note un changement suite au Brexit. Les entreprises qui ont relocalisé leur activité dans la finance ou la technologie, qui ont quitté notamment la ville de Londres pour venir à Dublin.
Et selon Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People, Dublin séduit également ceux qui n'arrivent plus à s'installer au Royaume-Uni.
Il n'y a pas besoin de visa, les démarches administratives sont extrêmement simples et la vie à Dublin en elle-même est extrêmement simple aussi. Les buildings, les quartiers d'affaires se sont énormément développés, mais on reste avec ce charme encore de la ville de bord de mer avec les montagnes à côté, donc c'est le Londres en mieux.
Annika, employée originaire de Berlin, partage le même constat.
J'ai eu quelques conversations comme ça où l'on m'a dit « Ah, je voulais aller à Londres, mais maintenant je ne peux plus ». Donc j'ai l'impression que Dublin a vraiment été remis sur le devant de la scène. Je pense que le changement est vraiment vers Dublin ou l'Irlande depuis le Brexit. Si tu parles une autre langue que l'anglais, tu peux avoir beaucoup d'opportunités de travail ici. Et c'est un très beau pays, malgré la pluie.
En termes de recrutement, l'Irlande serait ainsi la grande gagnante du Brexit. Le pays sait attirer des milliers d'expatriés. Aimant à investissement, l'Irlande a même dégagé l'année dernière un excédent budgétaire de 10 milliards d'euros. Des résultats à faire pâlir d'envie n'importe quel pays européen. Aujourd'hui, la question est même de savoir quoi faire de tous ces excédents. Le gouvernement irlandais a annoncé vouloir épargner une partie de cette somme. L'idée, ce serait, malgré donc cette ultra-dépendance aux GAFAM, d'être prudent et d'avoir un matelas en cas de ralentissement économique. Mais beaucoup appellent plutôt à dépenser ces fonds immédiatement pour résoudre la terrible crise du logement à laquelle l'Irlande est confrontée en ce moment.
Voilà, 20 ans que la Bulgarie est entrée dans l'OTAN, à l'heure où la question de la défense sur le flanc est de l'Europe n'a jamais été aussi cruciale, Sofia a décidé de consacrer 2% de son PIB au secteur de la défense qui doit se moderniser. Mais le plus gros problème de l'armée, c'est son manque d'effectifs. Un poste sur 5 est vacant, même si de nouvelles recrues ont fait une entrée remarquée, ce sont les femmes. Reportage en Bulgarie de notre correspondant Damien Vodenicharov.
Bourgas, cette ville portuaire de 200 000 habitants, est connue surtout pour ses sites touristiques en été. C'est le chef-lieu de tout le littoral sud de la mer Noire, jusqu'à la frontière avec la Turquie, située à une centaine de kilomètres en voiture. Une unité logistique de l'armée de terre est située ici. À 8 h du matin, les soldats se rassemblent devant les camions militaires. Après avoir reçu leurs instructions pour la journée, chacun monte à bord de son véhicule. L'unité est chargée du transport de troupes, de munitions ou de matériel militaire. Le ravitaillement est au cœur de la logistique. Galina Danishka est auxiliaire militaire. Elle est chargée de l'ambulance, de son contrôle technique à sa conduite. Elle n'est soldate que depuis 2 ans. Ce qui lui plaît surtout, c'est la diversité des missions.
Ça ne fait pas longtemps que je suis soldate, mais j'aime ce métier. Les gens avec qui je travaille sont vraiment intéressants. C'est un métier très varié. Nous avons des missions très différentes. Parfois, on assure des patrouilles le long des frontières. Il y a beaucoup de missions à l'étranger et on participe aux secours lors d'intempéries.
Dès ses premiers jours au sein du bataillon logistique de Bourgas, Galina a pu acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Aujourd'hui, elle est chargée de l'examen médical de ses collègues avant les exercices de logistique et de conduite.
En principe, je conduis une ambulance militaire, mais les commandants m'ont envoyé à Sofia pour une formation d'infirmière militaire. C'est là que j'ai acquis une grande partie de mes compétences. Aujourd'hui, notre unité devra s'exercer à la conduite. Je suis donc chargée d'examiner les participants, mesurer leur tension artérielle, voir s'ils sont indisposés. Voilà, assieds-toi là.
Galina fait partie des jeunes recrues. À 36 ans, elle a décidé de poursuivre une carrière plus stable que les petits boulots qu'elle avait connus jusque-là. Ses supérieurs se félicitent de sa décision. Le manque d'effectifs est un fléau pour l'armée bulgare. À l'époque communiste, elle comptait plus de 150 000 soldats avec un service militaire obligatoire de 2 ans. Ses frontières communes avec la Grèce et la Turquie, deux pays membres de l'OTAN, faisaient de la Bulgarie un carrefour stratégique pour le pacte de Varsovie. De grandes parades militaires défilaient au centre de la capitale Sofia. Les exercices militaires communs étaient organisés avec les pays du pacte de Varsovie et non de l'Alliance.
Над площада прелитат бойни вертолети от отличното подразделение, където служи офицерът Григор Дамянов.
Après la chute du communisme, l'armée devient professionnelle. Elle est graduellement réduite à moins de 30 000 soldats. Et faute de moyens, le matériel dont elle dispose est dépassé lors de son adhésion à l'OTAN en 2004. Toutes les branches de la défense connaissent de graves pénuries d'effectifs qui persistent encore aujourd'hui. Environ 20% des postes sont vacants. Le bataillon logistique de Bourgas fait pourtant exception, explique son commandant, le lieutenant-colonel Lubomir Lutskanov.
Environ 7 ou 8% des postes dans notre unité sont vacants. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y a toujours eu beaucoup de candidats, hommes ou femmes, lors des périodes de recrutement. L'unité propose des conditions de travail intéressantes, tant au niveau des prestations sociales que des perspectives de carrière.
Au niveau national, les femmes représentent 18% des effectifs de l'armée. Jusqu'à présent, les salaires trop bas rendaient le recrutement très difficile. En avril 2024, le Parlement a finalement entériné une augmentation de 30% à partir de 2025, ce qui fixe le salaire des jeunes recrues à 1100 euros mensuels, le salaire moyen dans le pays. Des processus de modernisation du matériel sont également en cours. Les contrats, chiffrés à plusieurs milliards d'euros, avancent lentement et peuvent rester en débat pendant des années.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur l'application Pure Radio. À demain.